Chapitre 80. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Septembre 1997. Quatre semaines que Philippe vivait à Brancy-en-Chalon. Chaque matin, dès qu'il ouvrait les yeux, le silence le terrassait. À Malgrange, il y avait de la circulation, des voitures et des camions qui passaient devant chez eux, qui s'arrêtaient quand Violette baissait la barrière, que la sonnerie retentissait, le bruit des trains qui filaient. Ici, dans cette morne campagne, le silence des morts le terrifiait. Même les visiteurs marchaient à pas de loup. Seule la cloche de l'église qui sonnait chaque heure lui rappelait, de son timbre lugubre, que le temps passait et qu'il ne se passait rien. Quatre semaines qu'il était là, et il avait déjà ce lieu en horreur. Les tombes, la maison, le jardin, la région, même les fossoyeurs. Quand leurs camions passaient les grilles, Philippe les évitait. Il les saluait de loin. Il ne voulait pas faire copain-copain avec ces trois dégénérés. Un décérébré qui se faisait appeler Elvis Presley, un autre qui se marrait tout le temps et récupérait les chats esquintés et autres bestioles en tout genre pour les soigner, et le troisième qui se cassait la gueule dès qu'il faisait un pas de côté et qu'on aurait dit sorti tout droit d'un asile de fous. Philippe s'était toujours méfié des hommes qui s'intéressaient aux animaux. C'était un truc de bonne femme de s'attendrir devant une boule de poils. Il savait que Violette rêvait d'avoir des chats et des chiens, mais Philippe refusait. Il lui avait fait croire qu'il y était allergique. La vérité, c'est qu'il en avait peur et qu'il trouvait ça dégueulasse. Les animaux le répugnaient. Le problème, c'est que des chats, il y en avait plein le cimetière, parce que Violette et deux des trois dégénérés les nourrissaient. Pour la première fois depuis leur emménagement, un enterrement était programmé à 15h ce jour-là. Il était parti tôt le matin pour faire un tour. D'habitude, il rentrait pour midi, mais il avait eu peur de croiser la famille endeuillée et le corbillard. Il avait roulé au hasard dans la campagne et était arrivé à Mâcon à l'heure du déjeuner. Arrêté à un feu rouge, il avait vu des enfants sortir d'une école primaire. Parmi un groupe de fillettes, il avait cru reconnaître Léonine. Même cheveux, même coiffure, même allure, même démarche, et surtout, même robe. La rose et rouge à pois blancs. À cet instant, il avait pensé, et si Léonine n'était pas dans la chambre au moment où tout a brûlé? Et si Léonine était toujours vivante quelque part, quand nous l'avait volée? Des gens de la race de Magnan et Fontanelle étaient capables de tout. Il avait coupé le moteur de sa moto et s'était dirigé vers l'enfant. Puis, en s'approchant d'elle, il s'était rappelé que la dernière fois qu'il l'avait vue, elle avait 7 ans, et qu'aujourd'hui, elle ne ferait plus partie d'un groupe d'enfants criant et sautillant, mais de collégiens. Qu'elle ne rentrerait plus dans sa robe rose et rouge à pois blancs. En remontant sur sa moto, la haine était revenue. La haine de la mort de sa fille. Il vivait ici, dans cet endroit maudit, à cause d'eux. Il était entré dans un routier, avait avalé un steak frite et une fois encore, au dos d'une nappe en papier, il avait noté « Edith Croquevieille, Swann Le Tellier, Lucie Lindon, Geneviève Magnan, barré, Héloïse Petit, Alain Fontanelle, barré. » Qu'allait-il faire de ces noms? Des noms de coupables d'avoir été là, coupables de négligence. Qui avait allumé ce foutu chauffe-eau et pourquoi? Fontanelle lui avait-il raconté n'importe quoi? Mais dans quel intérêt? Maintenant que Geneviève Magnan était morte, il aurait pu tout simplement dire que c'était elle la coupable. Il aurait pu lui dire que le feu était accidentel, maintenir la thèse de l'accident domestique. Il aurait pu ne rien dire du tout aussi. Pour la première fois, Alain Fontanelle avait eu l'air sincère quand il s'était mis à parler d'un trait, sans s'arrêter, sans réfléchir. Mais ses mots étaient imbibés d'alcool, et la perception que Philippe en avait eue aussi. Ils étaient tous deux ivres dans la salle à manger du diable. Philippe avait relu cette liste de noms qu'il notait trop souvent. Il fallait aller au bout, rencontrer les autres protagonistes en tête à tête. Il était trop tard pour ne pas savoir. 18 novembre 1997. En invitant une patiente à entrer dans la salle d'attente, Lucie Lindon l'avait reconnue immédiatement. Elle se rappelait parfaitement le visage de chaque parent qu'elle avait vu au tribunal, ceux que l'on appelait la partie civile. Et lui, le père de Léonine Toussaint, elle l'avait repéré parce qu'il était seul et particulièrement beau. Seul, sans son épouse, parmi les couples que formaient les parents d'Anaïs, Nadège et Océane. Elle avait témoigné sous leurs yeux, expliqué qu'elle n'avait rien pu faire cette nuit-là, à part évacuer les autres chambres et donner l'alerte au reste du personnel. Qu'elle n'avait pas entendu les enfants se relever pour aller dans les cuisines. Depuis la mort des fillettes, Lucie Lindon avait toujours froid, comme si elle vivait en permanence en plein courant d'air. Elle avait beau se couvrir, elle était parcourue de frissons. Le drame l'avait plongée dans un désert glacé qui la consumait autant que le feu avait consumé les enfants. Une fine pellicule de givre s'était immiscée sous sa peau. En voyant le père de Léonine, elle croisa et posa ses mains sur ses bras en les frictionnant comme pour se réchauffer. Qu'est-ce qu'il faisait là? Aucune des familles ne vivait dans la région. Savait-il qui elle était? Était-il là par hasard ou pour la voir elle? Avait-il rendez-vous ou voulait-il lui parler? Assis face à une fenêtre, il semblait attendre son tour, son casque de moto posé à ses pieds. Toussaint. Lucie Lindon chercha ce nom dans l'agenda des trois médecins présents ce matin-là au cabinet où elle était secrétaire médicale, mais ne vit son nom nulle part. Pendant plus de 2 heures, les médecins vinrent ouvrir la porte de la salle d'attente, mais jamais ils n'appelèrent Monsieur Toussaint. À midi, il était toujours là, assis face à la fenêtre, avec 2 autres patients qui attendaient leur tour. Une demi-heure plus tard, quand la salle d'attente fut vide, Lucie Lindon entra et ferma la porte derrière elle. Il tourna la tête dans sa direction et la fixa. Blonde, fine, plutôt jolie. Dans d'autres circonstances, il l'aurait draguée. Bien qu'il n'ait jamais dragué, juste apostrophé avant de se servir. « Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous ? Je veux vous parler. » « À moi ?» C'était la première fois qu'elle entendait le timbre de sa voix. Elle fut déçue. Elle laissait transparaître un accent un peu traînant, rural. Le ramage n'allait pas avec le plumage. Elle pensa cela pendant 2 secondes, puis se mit à paniquer, ses mains à trembler. Elle les posa à nouveau sur ses bras en les frottant nerveusement. « Pourquoi moi ?»« Fontanelle m'a dit que vous aviez demandé à Geneviève Magnan de surveiller les enfants à votre place ce soir-là, c'est vrai ?» Il avait dit cela sans y mettre la moindre intonation, ni colère, ni haine, ni passion. Il avait dit cela sans se présenter. Il savait que Lucie Lindon le connaissait, l'avait identifié, qu'elle comprendrait la signification des mots « ce soir-là ». Mentir ne servira à rien. Lucie sentit qu'elle n'avait pas le choix. Fontanelle, rien que ce nom, lui faisait horreur. Un vieux chien libidineux aux yeux sournois. Elle n'avait jamais compris pourquoi il avait été engagé pour travailler au château auprès d'enfants. « Oui, j'ai demandé à Geneviève de me remplacer. J'étais avec Swann Letellier à l'étage. Je me suis endormie. Quelqu'un a frappé à la porte. Je suis descendue et j'ai vu les flammes. Je n'ai rien pu faire. Je suis désolée. Rien. » Philippe se leva et partit sans la saluer. Jusque-là, Fontanelle n'avait pas menti. 12 décembre 1997. Est-ce que quelqu'un vous détestait? Me détestait? Avant l'incendie, est-ce que quelqu'un aurait pu vous en vouloir? M'en vouloir? Vous en vouloir au point de saboter du matériel? Je ne comprends pas, monsieur Toussaint. Est-ce que les chauffe-eau installés dans les chambres du rez-de-chaussée étaient défectueux? Défectueux? Philippe attrapa Edith Croquevieille par le col. Il l'avait attendue dans le parking souterrain du supermarché Cora d'Épinal. Épinal, c'est là qu'elle s'était installée après sa sortie de prison avec son mari. Philippe avait patienté, attendant qu'elle revienne avec son caddie, qu'elle ouvre le coffre de sa voiture et qu'elle charge ses courses. il fallait qu'elle soit seule. Quand il s'était approché d'elle, menaçant, elle avait mis quelques secondes à le resituer. Puis elle s'était dit qu'il était là pour la tuer, pas pour lui poser des questions. Elle avait pensé « Ça y est, c'est fini, je vis mes derniers instants ». Elle vivait avec l'idée qu'un jour ou l'autre, un des parents l'assassinerait. Depuis qu'il savait où elle résidait, Philippe l'avait observée 2 jours durant. Elle ne se déplaçait jamais sans son mari. Il l'accompagnait partout, l'ombre de son ombre. Ce matin, pour la première fois, elle avait quitté son domicile toute seule au volant de sa voiture. À son tour, Philippe ne l'avait pas lâchée. « Je n'ai jamais frappé une femme, mais si vous continuez à répondre à mes questions par une question, je vais vous casser la gueule. Et croyez-moi, j'ai rien à perdre. Ça, c'est déjà fait. » Il relâcha son étreinte. Édith Croquevieille vit que les yeux bleus de Philippe s'étaient assombris, comme si ses pupilles s'étaient dilatées sous l'effet de la colère. Pour être plus clair, est-ce que c'est vrai que les enfants se lavaient les mains à l'eau froide dans leur chambre parce que les chauffe-eau étaient pourris? Elle réfléchit 2 secondes et souffla un « oui » à peine audible. Est-ce que tout le personnel savait qu'il ne fallait pas toucher à ces chauffe-eau? Oui, ça faisait des années qu'il ne fonctionnait plus. Est-ce qu'un enfant aurait pu en mettre un en marche? Elle tourna nerveusement la tête de gauche à droite avant de répondre « Non ». « Pourquoi non ?» Ils étaient à plus de 2 mètres du sol et dissimulés derrière une trappe de sécurité. Il n'y avait aucun risque. Qui aurait pu le faire malgré tout ? Faire quoi ? Mettre un des chauffe-eau en marche ? Mais personne ! Personne ! Magnan ? Geneviève ? Pourquoi elle aurait fait ça ? Pauvre Geneviève ! Pourquoi vous me parlez des chauffe-eau ? Fontanelle, vous vous entendiez bien avec lui ?
Oui.
Je n'ai jamais eu de problème avec mon personnel, jamais. Et avec un voisin ? Un amant ? Le visage d'Édith Croquevielle se décomposait au fur et à mesure que Philippe la bombardait de questions. Elle ne comprenait pas où il voulait en venir. Monsieur Toussaint, jusqu'au 13 juillet 1993, ma vie était réglée comme du papier à musique. Philippe détestait cette expression. Sa mère l'employait souvent. Philippe eut envie de la tuer. Mais ça aurait servi à quoi? Cette femme était déjà morte. Il fallait la voir, engoncée dans un manteau triste. Triste mine, tristes yeux. Même les traits de son visage s'étaient pendus. Il lui tourna le dos et partit sans dire un mot. Édith Croquevieille cria « Monsieur Toussaint !» Il se tourna vers elle sans conviction, plus envie de la voir. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Il ne lui répondit pas, remonta sur sa moto et prit la direction de Brancion-en-Chalon, à contre-cœur. Il avait froid, il était fatigué. Il était parti depuis 3 jours sans donner de nouvelles à Violette. Il avait envie de retrouver des draps propres. Il avait envie de jouer avec ses manettes, de ne plus penser, de reprendre les vieilles habitudes. Ne plus penser.